Vous étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, revirement du gouvernement burundais, le Covid est maintenant devenu l'ennemi public numéro 1. 5 humanitaires ont été enlevés par un groupe djihadiste dans le nord-est du Nigeria. Arrestation d'un populaire leader d'opposition Oromo en Éthiopie. Premières arrestations à Hong Kong, moins de 24 heures après l'entrée en vigueur de la loi sur la sécurité imposée par Pékin. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord, le journal. Volte-face des autorités burundaises sur le Covid-19, le nouveau président Évariste Ndayishimiye a déclaré ce mardi que le coronavirus est le plus grand ennemi des Burundais. Abdourahmane Dia.
C'est clair que la maladie de Covid-19 est devenue aujourd'hui la principale préoccupation des populations, a lancé le chef de l'État après la prestation de serment de son nouveau gouvernement à Bujumbura. Cela passe, selon lui, par un strict respect des mesures barrières que le ministère de la Santé va désormais afficher partout à travers le pays. Il a indiqué que le gouvernement allait subventionner à 50% le prix du savon et diminuer le prix du mètre cube d'eau jusqu'à ce que la pandémie soit endiguée. Il s'agit d'un changement radical par rapport à l'attitude de son prédécesseur Pierre Nkurunziza, décédé le 8 juin et qui avait estimé que le Burundi était protégé par la grâce divine. Le gouvernement précédent n'avait pas imposé de confinement aux quelques 11 millions d'habitants et avait maintenu les élections générales du 20 mai sans mesure de distanciation sociale. Officiellement, le Burundi n'a recensé que 170 cas de Covid-19 pour un décès, mais des médecins se sont montrés sceptiques face à ces chiffres.
En République démocratique du Congo, l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, a demandé hier au peuple de se tenir en ordre de marche face au mépris dont il accuse la majorité parlementaire de l'ex-président Joseph Kabila. L'archevêque a souhaité la fin de la coalition entre le président Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila. Lundi soir, Félix Tshisekedi a prévenu qu'il n'accepterait sous aucun prétexte une réforme risquant de porter atteinte à la justice. Les États-Unis ont déjà estimé que cette réforme risque d'amoindrir l'indépendance de l'appareil judiciaire. 5 humanitaires, dont un employé de l'ONG française Action contre la faim, ont été enlevés par des djihadistes présumés dans le nord-est du Nigeria. Nathalie Barge.
Ishaiku Yakubu a été enlevé par des hommes armés avec 4 autres employés d'organisations humanitaires, a fait savoir Action contre la faim dans un communiqué publié mardi appelant à sa libération immédiate. Les humanitaires sont apparus dans une vidéo vraisemblablement tournée le 21 juin où ils disent avoir été kidnappés par des combattants du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest. ISWAP mène régulièrement des raid contre les ONG et avait enlevé 6 humanitaires l'année dernière. 5 d'entre eux ont été exécutés et une employée d'ACF est toujours entre leurs mains. Plus de 36 000 personnes ont été tuées depuis 2009 dans les violences dans le nord-est du Nigeria. 2 millions de personnes ont été déplacées et près de 7 millions dépendent de l'aide humanitaire pour survivre.
L'ex-patron de l'audiovisuel public camerounais, Amadou Vamoulke, accusé de détournement de fonds publics et détenu depuis près de 4 ans, doit bénéficier d'un procès équitable, a déclaré le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian. Selon l'ONG Reporters sans frontières, qui dénonce le calvaire de ce journaliste et réclame sa libération, Amadou Vamoulke est poursuivi pour des crimes économiques jamais établis par l'accusation. La Guinée équatoriale a suspendu ses travaux de construction d'un mur le long de sa frontière avec le Cameroun, a affirmé hier soir le ministre camerounais de la Défense, Betty Assomo, en marge d'une rencontre avec son homologue équato-guinéen. En juillet 2019, Yaoundé avait accusé la Guinée équatoriale d'avoir commencé à construire un mur à sa frontière en piétant sur son territoire, ce qu'avait démenti Malabo. Nous reviendrons sur ce dossier en deuxième partie de cette édition. Au Malawi, le nouveau président Lazarus Chakwera s'attaque à la corruption dans le secteur public. Il a ordonné la dissolution des conseils d'administration de plus de la moitié des 100 institutions et entreprises publiques du pays suspectées de mauvaise gestion ou de corruption. En Éthiopie, au moins 81 personnes ont été tuées suite à des manifestations déclenchées par la mort d'un célèbre chanteur de l'ethnie majoritaire Oromo et marqué par des violences communautaires. La police a confirmé hier soir l'arrestation de Jawar Mohamed, le populaire dirigeant d'opposition et critique du Premier ministre Abiy Ahmed. Eric Manirakiza.
Fondateur du média d'opposition oromien Media Network, basé aux États-Unis et qui diffuse principalement via Facebook, Jawar Mohamed a été arrêté hier à Addis Abeba avec 34 autres personnes, a indiqué le chef de la police fédérale Endacho Tasseou. Son arrestation a fait suite à une altercation avec la police au sujet du corps d'Achalou Undessa, un célèbre chanteur de l'ethnie majoritaire Oromo, tué par balle lundi soir à Addis Abeba. Ce décès a provoqué des manifestations hier en Oromia qui ont débouché sur des violences. Des sources médicales et locales parlent de 8 morts, tandis que l'agence Reuters avance la mort d'au moins 50 personnes. Achalou Undessa avait été un des porte-voix des Oromo lors des manifestations antigouvernementales en 2018. Le mobile de son meurtre n'est pas encore connu. Le chef de la police d'Addis Abeba, Ghetto Argao, a déclaré que des suspects ont été arrêtés. Le premier ministre Abiy Ahmed a appelé au calme et exprimé sa peine profonde sur Twitter, décrivant Achalou comme un jeune artiste rayonnant. Même si M. Abiy est le premier chef de gouvernement oromo de l'histoire moderne, de nombreux nationalistes oromo l'accusent de ne pas assez faire pour défendre les intérêts de sa communauté. L'arrestation de Jawar Mohamed pourrait exacerber les tensions en Oromia.
En Algérie, l'homme d'affaires Ali Haddad, l'ancien patron des patrons et 10 anciens ministres ont été condamnés à Alger à de lourdes peines pour corruption de 2 à 20 ans de prison. En Égypte, les pyramides de Gizeh, site phare du tourisme égyptien, ont rouvert au public aujourd'hui, après avoir fermé en mars en raison du coronavirus. Seulement quelques dizaines de touristes étaient présents.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Moins de 24 heures après l'entrée en vigueur de la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin à Hong Kong, la police a procédé ce mercredi aux premières arrestations en vertu de ce texte. Les précisions de John Hinden.
7 personnes ont été arrêtées pour violation présumée de la loi sur la sécurité nationale, a affirmé la police. Les forces de l'ordre ont procédé au total mercredi à l'arrestation de 180 personnes, alors que des milliers de Hongkongais se sont rassemblés pour marquer le 23e anniversaire de la rétrocession de l'ex-colonie britannique à la Chine. Ce rassemblement avait été interdit il y a quelques jours par les autorités pour la première fois en 17 ans. La police a fait usage de canons à eau et de gaz lacrymogènes pour disperser la foule des manifestants. Beaucoup d'entre eux scandaient des slogans en faveur de l'indépendance du territoire. Selon la police, un officier a été poignardé à l'épaule alors qu'il tentait de procéder à une arrestation. Promulguée par le président chinois Xi Jinping, cette loi permet de réprimer 4 types de crimes contre la sécurité de l'État: subversion, séparatisme, terrorisme et collusion avec des forces extérieures. La loi prévoit que la justice chinoise soit compétente pour certaines infractions et réserve la prison à vie aux crimes les plus graves contre la sécurité nationale. L'application de cette loi continue de susciter de nombreuses réprobations à travers le monde.
Épidémie de coronavirus dans le monde, avec près de 2000 morts en 24 heures. Le bilan journalier aux États-Unis est reparti à la hausse. La barre du millier de morts n'avait pas été franchie depuis le 10 juin. L'Europe a rouvert ses frontières aujourd'hui à 15 pays, dont le Rwanda, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Après plus de 3 mois de négociations laborieuses, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté aujourd'hui à l'unanimité une résolution réclamant une cessation des hostilités immédiates et générales dans tous les conflits, à l'exception des combats contre les groupes djihadistes. La résolution réclame aussi une pause humanitaire pour au moins 90 jours consécutifs afin de faciliter l'assistance internationale aux populations. Des milliers de Palestiniens ont manifesté dans la ville de Gaza contre le plan américain qui prévoit l'annexion par Israël de territoires en Cisjordanie et dans la vallée du Jourdain. Le gouvernement israélien doit en principe se prononcer sur la mise en œuvre de ce plan qui prévoit aussi la création d'un État palestinien démilitarisé sur un territoire morcelé. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Ekia Badou.
Le prix du carburant est en hausse de 20 francs CFA pour le mois de juillet 2020 en Côte d'Ivoire. Le super sans-plomb passe de 580 francs CFA le litre à 600 francs CFA le litre. Le prix du gasoil affiche également 600 francs CFA le litre contre 580 francs CFA pour le mois de juin. L'ajustement des prix des produits pétroliers en Côte d'Ivoire se fait chaque mois conformément aux dispositions du mécanisme automatique des prix des hydrocarbures sur le marché mondial. Le groupe CDC et Société Générale unissent leurs forces pour dynamiser le commerce africain avec un accord de partage des risques de 100 millions de dollars. Ce dispositif permet à Société Générale d'augmenter les limites de crédit octroyées aux banques locales et d'en allouer à de nouvelles banques en Afrique, en particulier dans les pays francophones d'Afrique de l'Ouest. Le nouvel accord de libre-échange entre les États-Unis, le Canada et le Mexique est entré en vigueur ce mercredi. Les frontières entre les trois pays sont partiellement fermées pour cause de pandémie de Covid-19. Les déplacements non essentiels sont interdits jusqu'au 21 juillet, mais les flux de marchandises continuent de circuler. Ouverture également des frontières en Tunisie et en Égypte pour sauver leur saison touristique. Les pyramides du plateau de Gizeh, site phare du tourisme égyptien près du Caire, ont rouvert au public ce mercredi après avoir fermé en mars en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. La CAF a tranché depuis hier. Après avoir été reprogrammée entre le 9 janvier et le 6 février, la CAN Cameroun 2021 est encore reportée d'un an, soit à 2022. C'est entre autres l'une des décisions prises par le comité exécutif de la CAF qui s'est réuni en visioconférence. De Yaoundé, voici le reportage de Manuel Jelontap.
Le public sportif ne demandait pas mieux que le maintien de la CAN et le CHAN au Cameroun, avec une participation effective du public.
Si la CAF laissait cette compétition se dérouler maintenant, on devrait être obligé, comme ça se passe partout ailleurs avec les grandes compétitions européennes qui se jouent à huis clos, chose que les Camerounais ne veulent pas.
La Coupe d'Afrique, ce n'est pas le deuil, c'est la joie et ça remporte aussi l'argent dans notre pays. Quand la maladie va finir, on va jouer.
En janvier 2021, le Cameroun dispute le CHAN au Berkay. C'est un nouveau challenge pour les joueurs. Serge Andoulo, latéral gauche de l'équipe nationale Alprime.
On espère qu'on aura ce même. Et c'est à chacun joueur de monter de quoi il vaut pour pouvoir faire partie de cette nouvelle cuvée.
Les nouvelles programmations de la CAN et le CHAN règlent aussi l'épineux problème du Cameroun dans la livraison de ses chantiers sportifs. Bonnet Philippe, journaliste et consultant sportif.
En 2019, le pays n'était pas prêt d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations. En 2021, on était bien évidemment en passe de ne pas être prêt parce que le stade de Limbé n'est pas fini. Du côté de Garoua, on a des infrastructures qui sont encore en construction et qui ne sont même pas arrivées à 60% des réalisations. J'espère simplement que l'on sera prêt pour la CAN 2022, dont le report est une très bonne nouvelle pour le Cameroun et ses autorités.
Les autorités camerounaises affirment que le Cameroun est prêt et va respecter le calendrier de la CAF. Yaoundé, Emmanuel Jelontap. VOA Afrique.
Au Bénin, la saison 2019-2020 est annulée après avoir différé la décision de la reprise ou non des championnats de football le 15 juin dernier. La Fédération béninoise de football a enfin tranché. Les détails avec notre correspondant au Bénin, Élisée Mpatine.
Interrompu depuis plusieurs mois, le championnat de football au Bénin ne reprendra pas. C'est ce qu'on peut retenir du communiqué officiel de la Fédération béninoise de football. Réuni en conférence virtuelle, le comité exécutif de l'instance qui gère le football au Bénin a décidé de mettre définitivement fin aux différents championnats de football en temps suspendu. Et au sujet des conséquences directes de cette décision, le titre de champion ne sera pas attribué et aucun club ne sera relégué. Plus loin, la FBF impose désormais une condition obligatoire remplie à ses clubs de Ligue 1 et 2 avant la participation au prochain championnat, celle de la création d'une société sportive qui va désormais gérer les équipes professionnelles.
Élisée Mpati.
Merci à toi. Vous êtes toujours à l'écoute du Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Les pays du Sahel et la France ont exprimé hier à Nouakchott leur volonté d'amplifier les progrès enregistrés selon eux contre les djihadistes ces derniers mois, tout en admettant l'ampleur des défis susceptibles de les remettre en cause. Le président Emmanuel Macron a assuré que les forces françaises et sahéliennes avaient réussi à inverser le rapport de force dans la zone dite des trois frontières, où ils ont concentré leurs opérations contre les groupes djihadistes ces derniers mois. Sur les conclusions de ce sommet, Bagassi Koura a joint à Ouagadougou l'analyste politique Siaka Koulibaly.
L'importance du sommet tient d'abord au fait qu'il venait consacrer la coalition pour le Sahel, qui se présente comme une sorte d'élargissement du G5 Sahel à d'autres partenaires internationaux qui jusque-là soit étaient réticents à intervenir dans le cadre du G5 Sahel, soit intervenaient dans des cadres parallèles. Donc ici, on a vu quand même la réunion d'un nombre important d'acteurs internationaux, comme l'Union européenne y était déjà, mais on a vu des pays européens comme l'Espagne, comme l'Italie, qui s'y sont mis de façon physique avec la représentation de leur plus haute autorité. Donc la coalition pour le Sahel qui a été lancée en avril donc se matérialise de cette façon-là, avec peut-être une approche plus cohérente des acteurs internationaux, mais aussi des moyens plus importants qui pourraient aider les pays dans un bref temps.
Alors, on a souvent parlé d'exactions attribuées aux forces de sécurité dans la région. Est-ce que cette question d'exaction a été évoquée?
La question a été évoquée dans les conclusions avec une forte recommandation aux armées nationales de se conformer notamment aux droits humains, de se conformer aux institutions de protection des droits des personnes. Cette recommandation, elle est faite, notamment au point 14 des conclusions du sommet. Mais l'on sait quand même que les États et leur gouvernance sont une partie importante du problème de l'insécurité et du terrorisme dans le G5 Sahel. Il est établi par plusieurs acteurs qui ont suivi la situation, notamment les organisations internationales des droits humains, qui établissent que les exactions des forces de défense et de sécurité dans les pays du G5 Sahel notamment ont contribué à augmenter le problème du terrorisme plus qu'elle ne l'a résolu. Parce que les exactions réalisées contre les populations civiles innocentes ont amené une bonne partie de ces populations, en tout cas les bras valides entre elles, à rejoindre les rangs des terroristes en vue de se venger clairement.
Est-ce qu'on a évoqué même la question du retrait des troupes françaises?
Il n'est pas du tout envisageable à l'heure actuelle de voir la force française quitter cette zone de l'Afrique, parce que la plupart des États ont des armées défaillantes qui seraient livrées, ces pays-là, aux troupes des organisations terroristes, et que si la force Barkhane venait à se retirer dans l'immédiat. Cependant, il est envisagé avec notamment la coalition pour le Sahel de renforcer les armées nationales de sorte qu'elles puissent elles-mêmes remplacer la force Barkhane, comme cela a été fait en Afghanistan par exemple.
C'était Siaka Koulibaly, analyste politique. Il était joint à Ouagadougou.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Le Gabon est entré dans le confinement progressif. Le gouvernement a annoncé hier un plan d'allègement des restrictions imposées sur l'ensemble du territoire depuis l'apparition de la pandémie du Covid-19 en mars dernier. Pour cette première phase, les transports, l'hôtellerie, les universités et les écoles sont autorisés à reprendre du service. Pour les lycées, la reprise est réservée exclusivement aux élèves des classes de terminale. Les classes intermédiaires sont de facto en vacances. Le reportage à Libreville de notre correspondant Ismaël Obiangze.
La cruche Mongolu David, enseignant d'histoire géo dans un lycée public de Libreville, est soulagée par la décision gouvernementale annonçant la reprise des cours dans les semaines à venir.
Les enfants nous ont quand même manqué. Il y avait quand même des petits liens qui sont tissés avec nos enfants. Et on est plus ou moins motivés à les accompagner vers l'examen. C'est vrai qu'entre-temps, il y a quelque peu la paresse qui s'est installée, mais on trouvera l'effort qu'il faut pour les accompagner au mieux.
Selon les autorités gabonaises, le retour à l'école concerne exclusivement les classes de terminale. Une bonne nouvelle pour Meyo Stécy, déjà préparée à affronter son examen.
Je suis prête parce que je me suis préparée. Je suivais des cours à la première chaîne. Et puis, je m'exerçais aussi avec les TD que les professeurs nous avaient remis. J'ai aussi regardé les anciennes corrections et les précédents cours.
Du côté des parents d'élèves, le doute subsiste quant à l'efficacité des programmes scolaires alternatifs mis en place par le ministère de l'Éducation nationale pendant le confinement. Julien Niaré est parent d'élèves.
Nous, encore à Libreville, on arrive à se débrouiller. Mais ceux qui sont à l'intérieur du pays, qui n'ont même pas accès à Internet, on fait comment ? Hein ? Quand on sait que déjà la plupart des cybercafés sont fermés, ce qui permettait aux enfants d'aller se connecter. Donc le gouvernement, comme d'habitude, hein, ce que je dis n'engage que moi, met toujours la charrue avant les bœufs.
Ce calendrier qui prévoit la rentrée au 20 juillet avec à la clé le bac en août est aussi contesté par le syndicat de l'éducation nationale. Le Sénat de Fridolin Vemessa souhaite une organisation de la reprise des cours qui tienne compte des précautions sanitaires à l'intérieur des établissements scolaires.
Parce qu'aujourd'hui, si on retarde les élèves, surtout ceux des classes d'examen, une année de plus, je crois que ce sera une année de trop. Donc nous devons tout faire, même si la pandémie dure, mais nous pouvons envisager effectivement reprendre les cours, même au mois d'août, même au mois de septembre, pour décaler la rentrée 2021-2022. Donc nous pouvons valablement réfléchir sur la question.
Le gouvernement est formel. La rentrée se fera dans le strict respect des conditions d'hygiène imposées par le ministère de la Santé, ainsi que le comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre le coronavirus, à savoir la distanciation physique qui passera par la subdivision des classes, la désinfection systématique des salles de classe et la distribution des gels hydroalcooliques et les masques. Libreville, Ismaël Obiangze pour VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Guinée équatoriale a suspendu les travaux de construction d'un mur le long de sa frontière avec le Cameroun, a affirmé le ministre camerounais de la Défense après une rencontre avec son homologue équato-guinéen. Les deux parties ont convenu une fois de plus de retirer leurs troupes de la frontière litigieuse après des affrontements qui ont fait au moins 7 morts. Plus tôt ce mois-ci, un accord de retrait des forces n'a pas été respecté et certains commerçants frontaliers sont sceptiques quant à l'application de ce dernier pacte. Le reportage de Moki Edwin Kinzeka Yaoundé, le récit est de Lionel Gaïma.
Après une deuxième journée de discussion à huis clos au Cameroun, le ministre de la Défense de la Guinée équatoriale, Leandro Bekale Nkongo, a déclaré que les deux parties ont convenu de mettre de côté leurs divergences. Il a annoncé que la Guinée équatoriale suspendrait la construction du mur frontalier qui, selon le gouvernement camerounais, viole son territoire.
Ce que nous souhaitons comme changement, c'est la consolidation de l'entente entre nos deux armées. Parce que ils ont des combats communs, par exemple contre la piraterie, contre le dépouillement, le pillage des populations. Notre souhait est que le soldat équato-guinéen se sente chez lui au Cameroun et que le soldat camerounais se sente chez lui en Guinée équatoriale.
Leandro Bekale Nkongo a ajouté que le Cameroun et la Guinée équatoriale voisine ont besoin l'un de l'autre pour leur sécurité et leur développement. Le président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiangema, a ordonné la construction du mur frontalier en 2019 pour empêcher les Camerounais et les Africains de l'Ouest d'entrer illégalement dans son pays. Le Cameroun a, de son côté, déployé son armée pour mettre fin à ce qu'il a appelé une intrusion de bornes frontières, entraînant des conflits armés et des pertes humaines. Un accord au début du mois de juin pour retirer les troupes et délimiter la frontière a échoué. Le Cameroun affirme qu'au moins 7 civils ont été tués dans des affrontements qui ont suivi dans la ville de Kai aussi, dans le sud. Le ministre camerounais de la Défense, Joseph Betty Assomo, affirme que les deux parties sont fermement résolues à mettre un terme à la tension.
Un pays frère, ami. Je ne veux pas citer les liens que nous avons, ils sont nombreux, ils sont historiques, ils sont culturels, ils sont sociologiques, ils sont géographiques.
Malgré cette bonne volonté affichée, les commerçants le long de la frontière ne sont pas convaincus. Angelica Amende, une Camerounaise de 40 ans, achète du vin de Guinée équatoriale pour le revendre au Cameroun.
Tous les jours, les deux présidents du Cameroun et de Guinée équatoriale disent qu'on va résoudre ça. Et tous les temps, ça continue. Il y a les militaires, il y a les polices là-bas. Ça ne va pas. On a tué 7 personnes aux frontières et rien ne passe. Il faut que les deux présidents cherchent à résoudre le problème.
La Guinée équatoriale a souvent accusé le Cameroun de ne pas en faire assez pour empêcher ses citoyens et des ressortissants ouest-africains de franchir la frontière illégalement. En 2017, la Guinée équatoriale a fermé sa frontière avec le Cameroun pendant 6 mois. Après que les autorités ont arrêté des étrangers lourdement armés et les ont accusés de comploter pour renverser le régime au Obiang. Le Cameroun et la Guinée équatoriale ont rejoint en 2017 4 autres États de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale pour lever les exigences de visa. Maintenant, presque tous les pays membres de la CEMAC accusent la Guinée équatoriale de traîner les pieds concernant la libre circulation de biens et des personnes.
Abdourahmane Dia avec vous, cette semaine dans Washington Forum, à plus de 4 mois de la présidentielle américaine, le président Donald Trump et son adversaire démocrate Joe Biden sont à l'assaut des électeurs. Une campagne qui se tient alors que les États-Unis continuent d'être le pays le plus touché par la pandémie de COVID-19. À quelques semaines des conventions républicaines et démocrates, la gestion de la pandémie, l'économie et la question raciale semblent dominer les débats. Nous ferons le point avec nos invités ce jeudi 2 juillet 2020 à 19h temps universel sur VOA Afrique et VOA Afrique.com.
Les autorités de la RDC ont salué les regrets que le roi belge a exprimés sur les blessures infligées aux Congolais sous la colonisation. Mais plusieurs associations de défense des droits de l'homme et des intellectuels congolais ont dit attendre plus que des regrets, mais des excuses officielles, voire des réparations pour les atrocités commises par les colons belges. Eddie Isango a recueilli la réaction de Toto Mabiku, un Congolais habitant à Charlotte, en Caroline du Nord.
Bon, je dois d'abord rappeler que c'est une avancée importante. Malheureusement, cela ne vient pas à cause d'une lutte ou de démarches faites par les Congolais. Mais si tu remarques que cela a été fait suite aux événements aux États-Unis, résultant des marches Black Lives Matter. Ainsi, il est important de circonscrire ça dans ce contexte général de la lutte qui est liée actuellement aux États-Unis et en Europe. Mais ce qui est important, c'est une avancée dans le sens que la RDC et la Belgique doivent tourner la page de l'histoire et regarder de l'avant pour que nous puissions travailler ensemble comme des peuples qui ont une histoire commune. Et ça, c'est très, très important dans les contextes.
Kinshasa, la capitale de la RDC, a aussi été appelée sous le nom de Léopold, je veux dire Léopoldville. Aujourd'hui, quel regard les Congolais portent à ce roi Léopold II?
Beaucoup de Congolais ne connaissent pas l'histoire réelle de leur pays parce que cette histoire a été tronquée, préparée depuis la Belgique. On continue à étudier la même histoire. Je crois qu'il doit y avoir des réformes rapides dans les domaines historiques pour que nous puissions réellement enseigner la population congolaise ce qui a eu lieu sur son territoire. Le roi Léopold II, malgré qu'il a quand même aidé à l'émancipation de la population congolaise, mais on doit le classer aussi dans l'ordre des criminels comme Hitler parce que il est responsable de plus ou moins 10 millions de morts congolais et ça c'est énorme et je crois que c'était une bonne décision d'enlever son nom comme le nom de la capitale de la RDC.
Toto Mabiku, un Congolais habitant à Charlotte, en Caroline du Nord. C'est la
la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Josèle Morissin, Michel Joseph, Lionel Gaïma et Georges Léonard Sagnot. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet, voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.